Oui, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, asseyez-vous s'il vous plaît. Et bienvenue à ce merveilleux culte du mercredi 17 décembre 2025, un temps merveilleux d'avant, l'avant où nous allons nous focusser sur ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Donc j'aimerais qu'on prenne rapidement quelques écritures, mais avant, j'aimerais vous rappeler la raison de notre vie. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La Bible nous déclare, car ils sont du monde. Et le monde les écoute, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire être du monde? Bon, prenons ce verset, voyons voir. C'est un verset qu'on trouve dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et la Bible nous montre clairement de 1 Jean, chapitre 4 et verset 5. 1 Jean, chapitre 4 et verset 5. Le nom du Seigneur Jésus est mentionné avec abondance et prospérité. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde et le monde les écoute. Écoutez-moi bien, personne à part Jésus-Christ et ses serviteurs sincères, personne à part ce groupe de personnes, cette catégorie de personnes, n'a en tête le bien-être profond commun. Personne. Par exemple, si je vous dis, c'est intéressant, comprenez que il n'y a rien qui est vraiment stable dans ce monde à part la parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il n'y a en Dieu aucune ombre de variation. Amen. Aucune ombre de variation dans le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. J'aimerais vous donner un exemple. Regardez. Tout le monde connaît ce qu'il s'est passé pendant l'Holocauste, hein, en Occident. Tout le monde sait ce qu'est la Shoah, ou dans d'autres termes, l'Holocauste, ou la solution finale. Et donc, on a cette perception-là de l'histoire qui nous a été donnée. Par exemple, combien de vous savez qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1,5 et 2 millions d'Allemands civils ont été ethniquement tués? C'est un fait historique. Allez le regarder. Comment ne savons-nous pas non plus qu'avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, les chrétiens étaient persécutés par les bolcheviks? On ne sait pas vraiment exactement, mais des centaines, voire millions de chrétiens ont été assassinés dans des camps de la mort également. Comment se fait-il que, également, il y a eu un massacre au Congo, je crois que c'était sous le roi Léopold V, mais je ne suis pas sûr de ça, en tout cas pendant l'Empire belge au Congo, 5 millions de morts, ils estiment. La question est de dire, c'est comment se fait-il que des chrétiens ont été massacrés, n'est-ce pas, que des Allemands ont été massacrés, et pourtant dans notre histoire, on connaît seulement le massacre qui a principalement touché l'Occident, c'est-à-dire la Shoah. Comment se fait-il ça? C'est parce que l'accès à l'information, ou plutôt le monde, va nous donner une narrative qu'on doit suivre. Vous voyez? Comment se fait-il aussi, par exemple, qu'on ne parle pas du massacre qu'il y a eu? Vous voyez là, j'ai vu un horrible attentat terroriste qui s'est produit en Australie, vous l'avez vu, n'est-ce pas, hein? Horrible. Et on voit tous ces gens qui s'indignent et tout ça, ce qui est juste, c'est légitime. Ce que je demande, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'indignation quand les terroristes du Rwanda, le M23, je crois, ont tué des centaines de civils au Congo, qui étaient tous chrétiens, se dit en passant. Hein? Bizarre ça, hein? Presque tous chrétiens. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une telle horreur manifestée au Nigeria du Nord, quand toutes ces jeunes filles chrétiennes catholiques se font enlever pour être violées? Pourquoi rien n'est dit? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que notre monde, la narrative du monde, vous comprenez, elle n'est pas orientée selon la vérité de Dieu que chaque être humain a une valeur. C'est pour ça qu'ils ont réussi à passer à côté de milliers de langues, littéralement. Officiellement, il y a 7056 langues dans le monde. Comment ça se fait que la rhapsodie des réalités, on l'a découvert au point d'arriver à 8123 langues? Parce que ce n'est pas une recherche de vérité, vous voyez? Mais nous qui servons le Dieu vivant, chaque âme compte. Vous voyez? C'est pour ça que chaque langue va compter aussi. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça que chaque fois qu'on entend parler de ces choses génocidaires qui se produisent dans d'autres circonstances que celles de l'Occident, on doit réagir également et mener toujours frontalement dans la prière. C'est pour ça que les gens, des fois, ils sont choqués quand le clergé de plusieurs églises, que ce soit même pasteur Chris, hein, soudainement ne prennent pas position face à quelque chose qui se passe dans notre monde occidental. C'est parce qu'il est le pasteur du monde. Amen. Il ne peut pas soutenir spécifiquement l'Occident. Vous voyez un petit peu l'idée? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas position par rapport à ce qui s'est passé en Australie, par exemple, disons, je condamne ce qui s'est passé? Parce qu'il aime les Australiens autant qu'il aime les Nigérians, autant qu'il aime les Sud-Américains, autant qu'il aime les Européens, autant qu'il aime les Chinois, autant qu'il aime les Australiens. Amen. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention de ne pas tomber dans des dérives communautaires. Notre première identité, c'est enfant de Dieu. Amen. C'est notre première identité. Vous avez plus en commun avec une personne qui vient d'une tribu africaine perdue qui croit en Jésus-Christ que votre ami suisse qui renie Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Vous avez plus en commun avec eux. Mais c'est des choses en commun à l'intérieur de l'esprit. C'est pour ça des fois qu'on passe à côté. Parce qu'on est charnel, on regarde aux choses de la chair, comment on s'habille, quelle couleur de peau on a. Vous voyez un peu l'idée? Mais la réalité de l'évangile, c'est que même si vous avez des cultures différentes, par exemple, d'une personne indienne, si cette personne croit en Jésus-Christ, vous êtes plus proche de cette personne dans votre identité qu'un Suisse, par exemple, ou une personne locale de notre pays avec nos coutumes qui ne croit pas en Jésus-Christ. Amen. Et donc, j'aimerais que vous ayez en tête le déroulement juste des choses, que vous ayez en tête que les informations qui vous parviennent sont limitées et seulement la parole de Dieu est ferme et absolue et constante. Amen. Et j'aimerais que vous gardiez ça en tête. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Comment ça se fait que nous qui sommes tous allés à l'école, on n'ait jamais entendu parler du massacre des Allemands? C'est curieux quand même. Et maintenant, en grandissant, on comprend que la raison pour laquelle ce massacre n'a pas été abordé, c'est simplement qu'il y avait une narrative que les alliés qui ont gagné la guerre ont dû créer. Vous voyez? De la même manière que quand les bolcheviks tuaient les chrétiens en masse, il y avait une narrative antichrétienne qui devait garder et ne pas nous informer. Vous voyez? Amen. Et donc nous devons comprendre quelque chose, c'est qu'ils sont du monde, ces gens. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde. Et le monde les écoute. C'est pour ça que si vous allez aujourd'hui dans la rue et demandez à un Suisse lambda, sais-tu? Moi j'appelle ça un génocide. Ils disent que ce n'était pas un génocide, mais ils ont ciblé les Allemands pour les tuer. Jusqu'à 2 millions de morts, vous imaginez? Comment se fait-il que personne n'en parle? La plupart des gens ne savent même pas que ça arrivait. Jusque dans les années 55, ça a duré. Un meurtre systématique des civils. Vous voyez? Aujourd'hui encore, un meurtre systématique des enfants de Dieu au Nigeria et dans plein d'autres endroits, en Corée du Nord, en Arabie Saoudite, et personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils sont du monde, vous comprenez? C'est pour ça que je dis aux chrétiens, arrêtez de regarder les nouvelles. Vous n'allez pas apprendre quelque chose. Dieu vous oriente. On a vu aujourd'hui dans la rhapsodie, notre excellence et notre promotion vient de Dieu. Amen. Vient de cet esprit d'excellence qui vit en nous. L'esprit de Dieu vous guide là où vous devez aller. Et vous réussissez à tous égards. Dites, je réussis à tous égards. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais qu'on voie la volonté de Dieu pour vos vies. Arrêtez de... Tant qu'une personne ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur, cette personne ne veut pas le bien. Fini. Parce que la Bible dit que tout don parfait, tout don excellent, Jacques chapitre 1, nous dit que ça vient de Dieu. D'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Dites, je suis plus que vainqueur. Et dites, je suis attentif aux choses de Dieu. Et je ne suis pas attentif aux choses du monde. Au nom de Jésus. Et c'est la vérité pour votre vie. Vous devez vivre dans cette réalité-là. Et moi, j'aimerais que vous compreniez, quand l'Esprit de Dieu nous conduit dans les Écritures, ce n'est pas pour rien que la Bible est ce livre antique qui a été le mieux préservé de l'histoire de l'humanité. Et de loin, et de loin. Amen. Prenez Colossiens chapitre 1, versets 10 à 11. Voyez ce que Dieu veut pour votre vie. Parce que c'est la prière que l'apôtre Paul a écrite pour les Colossiens. Et qui reflète la volonté du Seigneur, vous voyez, pour vous. Donc il prie pour eux. Si on peut prendre juste le verset 9 quand même aussi. Il dit, c'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, Nous ne cessons pas de prier et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut pour vous. Les gens se posent la question, mais est-ce que Dieu veut que je fasse tel travail? Est-ce qu'il veut que je continue ces projets? Est-ce qu'il veut que je stoppe ceci? Est-ce qu'il veut que je produise ceci? Est-ce qu'il veut que je déménage? Est-ce qu'il veut que Dieu veut pour moi? Ce que Dieu veut, vous voyez, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et il va préciser, regardez, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Dites, je marche d'une manière digne du Seigneur. Vous vous tenez droit. Vous traitez les gens avec respect. L'humilité. Vous savez, j'ai de la peine avec tous ces systèmes mystiques qui volent les principes du christianisme et qui retirent Dieu de ça. Vous voyez un peu? Vous savez ce que c'est le tarot, ces cartes-là? Ils mettent toujours le principe d'humilité dedans et c'est un truc qui m'agace. Parce qu'ils prennent ça sans mettre Dieu avec. La Bible dit l'humilité précède la gloire, amen. Et eux, ils mettent ce principe-là en retirant l'aspect de divin. Pourquoi? Parce que vous comprenez que l'humilité, c'est Jésus lui-même. Et si on retire ça, ce qu'on va avoir, ce n'est pas de l'humilité, ce sont juste des principes chrétiens qu'on a volés au christianisme. Mais ils ne seront pas aussi efficaces si l'Esprit de Dieu n'est pas là à énergiser ces principes. Vous comprenez? Et donc ces gens vont appliquer des principes d'humilité. C'est pour ça qu'on va voir des gens qui prospèrent sans Dieu, par exemple. Ou qui réussissent dans la vie sans Dieu. Ou qui voient leur business avancer sans Dieu. Comment est-ce possible? Parce qu'en fait, vous comprenez qu'ils appliquent des principes divins qui fonctionnent. Par exemple, un principe divin, une loi divine que Dieu a créée, c'est la gravité. Elle fonctionne pour tout le monde, que vous y croyez ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible dit que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, que le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Et vous voyez, l'humilité précède la gloire. Et il dit qu'on doit marcher de cette manière digne. Soyez humble, soyez conscient. C'est pour ça qu'on a parlé dimanche, n'est-ce pas, d'être rempli de l'Esprit Saint. Et une des manières d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est de se chanter des louanges. Amen. Et j'ai eu un témoignage. Il a chanté des louanges toute la journée. Il n'a pas pris son médicament. Merveilleux. Il a été mieux concentré que jamais. C'est beau, hein? Vous voyez, c'est ça. On se remplit du Saint-Esprit. Vous prenez ce langage, vous prenez cette réalité-là, et c'est pour lui plaire à tous égards. Ça veut dire que vous lui plaisez. Dites, je plais au Seigneur. Vous devez plaire au Seigneur dans votre évangélisation. Vous devez plaire au Seigneur dans votre consécration à la parole. Vous devez plaire au Seigneur dans votre vie de prière. Vous devez plaire au Seigneur à tous égards. C'est la prière que l'Esprit de Dieu offre au travers de Paul pour nous. Regardez. Portant du fruit en toutes bonnes œuvres et croissant, comment? Par la connaissance de Dieu. Verset suivant. Étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, avec toute patience et constante, avec joie. C'est pour ça que la Bible dit « La joie du Seigneur est ma force. » Amen. Vous devez rester dans cette réalité. Ne soyez pas distraits par des choses. Ce monde est rempli de distractions et cherche votre attention de manière permanente. Vous saviez cela? Le gouvernement cherche votre attention. Les sociétés de nouvelles, n'est-ce pas, de médias, cherchent votre attention. Les sociétés qui vendent ces médicaments qui vous détruisent cherchent votre attention. C'est le but même de la publicité. La publicité en elle-même n'est pas un problème. C'est ce pourquoi on fait de la publicité qui peut être problématique, vous voyez. Les réseaux sociaux, vous comprenez quelque chose, toutes ces choses viennent voler votre attention. Vous comprenez? Et vous devez être absolument focus sur les choses de Dieu. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Et donc vous devez réaliser cette chose-là. Prenons un autre passage dans les Écritures, Éphésiens, chapitre 3, versets 15 à 19. J'aimerais que vous compreniez ce que Dieu veut pour vous, dites pour moi. Soyez remplis d'excellence, remplis de prospérité, remplis de réussite. Verset juste suivant, excuse-moi, on prend le verset 16 en version Darby. Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur. Regardez bien. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi il dit dans les cœurs? Vous avez remarqué ça? Je crois que Dieu habitait déjà en moi. Dieu habite dans votre esprit. Amen. Et vous devez le laisser passer dans votre cœur maintenant. De sorte que le Christ, juste en avant, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, verset suivant, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc il dit, vous devez être enracinés, mais non seulement enracinés, mais fondés. Pourquoi est-ce qu'il utilise deux termes différents? Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il surenchérit sur le fait qu'on est enraciné. Parce qu'une, voyez, une racine, c'est naturel. Une fondation, c'est quelque chose qu'on construit. Voyez, c'est ce que moi je vois là. Afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Alléluia. Continuons. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous. Les gens disent, Dieu veut que j'aie de l'argent, voyez, Dieu veut que je prospère, tout ça c'est vrai. Mais en réalité, si on va vraiment dans les Écritures, Dieu veut que sa connaissance en vous augmente. Comme Pasteur Chris nous a dit, Dieu ne veut pas vous donner un travail, Dieu ne veut pas vous donner de l'argent, Dieu ne veut pas vous donner la santé ou la guérison ou un mariage ou une compréhension. Dieu veut mettre à l'intérieur de vous cette parole qui vous fait produire, la productivité divine. Amen. Il dit, il aimerait mettre la parole de Dieu dans votre esprit. C'est ça qu'il cherche à faire. Regardez, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qui veut dire que c'est possible que vous débordiez de toute la plénitude de Dieu. Prenons Éphésiens 1, 16 à 19. Dites, je me remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est la vérité de l'Évangile. Regardez ce qu'il dit encore une fois. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, ô merveilleux, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Regardez comme c'est beau. « Les yeux de vos cœurs étant éclairés. » Pourquoi est-ce qu'il dit « les yeux de vos cœurs étant éclairés » ? Nos yeux, ils regardent la chose, c'est la chose qui devrait être éclairée, non ? Pourquoi nos yeux ? C'est curieux ça, hein ? Pourquoi il dit vos yeux soient éclairés et non pas que la chose que vous regardez soit éclairée, qu'elle soit nette ? Parce que la Bible dit l'œil est la lampe du corps. Donc en fait, quand vos yeux sont éclairés, c'est vers l'intérieur de vous, vous comprenez ? Vos yeux reçoivent la parole et ça allume une lampe qui éclaire et chasse les ténèbres de l'intérieur de votre vie. C'est beau, hein ? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses, les kabarashata, les richesses de la gloire et de son héritage dans les saints. Alléluia. Il y a un héritage. Notez qu'il n'a pas dit que vous connaissiez l'héritage, juste le verset d'avant, qu'il n'a pas dit que vous connaissiez l'héritage qui vous est destiné. Il a dit l'héritage, notez ça, les richesses de la gloire de son héritage ou dans les saints. Donc cette richesse et cet héritage sont à l'intérieur de nous. Vous comprenez ça, à quel point c'est profond ? Oh, alléluia ! Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons ? Et il précise après, selon l'opération de la puissance de sa force. Vous devez méditer sur ces choses. Philippiens 1, 8, à partir du verset 9. Oh, alléluia ! Dites, je suis béni et prospère. Dites, je suis béni et prospère. Alléluia. Parce que Christ veut cette réalité pour vous. Christ veut cette réalisation pour vous. Christ veut que vous avanciez dans tout point de vue. Regardez, il dit, je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus. Que l'amour de Dieu abonde dans vos cœurs. En connaissance et toute intelligence. Alléluia. Pour que vous discerniez les choses excellentes. Il y a une traduction, j'aime beaucoup, elle ne dit pas les choses excellentes, elle dit les choses qui ont de l'importance. Vous voyez la nuance ? Les choses qui ont de l'importance, les choses excellentes, les choses qui sont bonnes, afin... Et qu'est-ce que ça fait ? Regardez. Donc l'amour, juste le verset avant, s'il te plaît, le verset 9. L'amour abonde encore de plus en plus. Donc il dit que l'amour qui est en vous se met à multiplier, à croître, à s'établir. Vous voyez ? Qu'il abonde de plus en plus. Mais comment ? En connaissance et en intelligence. Donc il dit que cet amour ne soit pas faux, vous voyez ? Par exemple, il y a des chrétiens qui vont dire, si tu aimes les drogués, tu vas les... Non, en fait, ils ne disent pas vraiment ça. Ils disent, si tu aimes, par exemple, les fornicateurs, tu ne vas pas leur dire d'arrêter de forniquer. Ou les homosexuels, tu ne vas pas leur dire, tu vas leur faire du mal si tu leur dis d'arrêter. Vous voyez, ils disent, non, sois pas rude avec... C'est un faux amour, ça. Ce n'est pas du vrai amour. C'est des gens qui s'aiment eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas que les gens ne les aiment pas. Après, il y a bien sûr le tact avec lequel vous devez amener la vérité. Vous voyez ? Par exemple, on l'a déjà vu, on en a parlé il y a peu avec Natacha, même au fitness, quand Daniel a dû amener la mauvaise nouvelle au roi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit, c'est une prophétie contre tes ennemis. Alors qu'en réalité, alors c'était le cas en fait. Hein. Vous voulez qu'on voie ce passage ? Vous avez un peu de temps, amen ? Il y a Nebuchadnezzar qui fait un rêve. Il fait un rêve très curieux, qui ne veut rien dire selon lui. C'est un des passages les plus intéressants de toutes les Écritures. Alléluia. Daniel chapitre 4. Oui, c'est un long passage, mais lisons-le entier. Vous allez comprendre la sagesse de l'amour. Juste une parenthèse. Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, peuplades et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Donc là, il dit, j'aimerais vous faire savoir. Notez une chose, ça montre que Nebuchadnezzar, un roi païen, est un des auteurs des Écritures. Vous voyez, vous suivez là ou pas? C'est lui qui a écrit ça. Donc, Dieu a utilisé un roi païen pour participer aux Écritures. C'est beau, hein? Verset suivant. Ses signes, combien ils sont grands, et ses prodiges, combien ils sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération. Il commence fort. Hein? Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais. C'est marrant ça, hein? Il florissait, tout allait bien en fait. C'est pas? Je vis un songe. Un songe, c'est un rêve. Et il m'effraya, et les pensées que j'avais sur mon lit et les visions de ma tête me troublèrent. Et de par moi fut donné un ordre qu'on amena devant moi tous les sages de Babylone, pour qu'ils me fissent connaître l'interprétation du songe. Alors vinrent les devins, les enchanteurs, les chaldéens et les augures, et je dis le songe devant eux, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Regardez quelque chose. Un instant, hein. Donnez-moi 2 secondes. Regardez ça. Mais à la fin, entra devant moi Daniel, dont le nom est Belteshazzar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints, et je dis le songe devant lui. Belteshazzar, chef des devins, puisque je sais que l'esprit de Dieu est en toi, et qu'aucun secret ne t'embarrasse, dis-moi les visions du songe que j'ai vu et son interprétation. Or les visions de ma tête sur mon lit étaient celles-ci. Je voyais, et voici un arbre au milieu de la terre, et son hauteur était grande. Et l'arbre crut et devint fort, et sa hauteur atteignit jusqu'au bout de la terre. Vois cet arbre, il voit cet arbre magnifique. Verset 12. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Et en lui, il y avait de la nourriture pour tous. Sous son ombre se tenaient les bêtes et des champs. Et dans ses branches habitaient les oiseaux des cieux. Et de lui, toute chair se nourrissait. Et je voyais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un veillant, un saint, descendu des cieux. Il cria avec force et dit, « Abattez l'arbre et coupez ses branches. Faites tomber son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessous lui et les oiseaux de ses branches. » Toutefois, laissez dans la terre le tronc de ses racines avec un lien de fer et d'airain autour de lui, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait avec les bêtes sa part à l'herbe de la terre, et que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 ans passent sur lui. Cette sentence est par le décret des veillants, et la chose par la parole des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et il élève le plus vil des hommes. Il est en train de dire que cet homme, Nebuchadnezzar, est un homme vil. Intéressant, hein? Pourtant il a écrit une passage de la Bible. Vous voyez comme Dieu est plein de grâce. Ce songe, moi, le roi Nebuchadnezzar, je l'ai vu. Et toi, Belteshazzar, disons l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume n'ont pas pu faire connaître l'interprétation. Mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. Ça nous fait penser, pourquoi il n'a pas appelé Daniel directement? Il essaie d'abord de passer par des devins. Alors Daniel, dont le nom est Belteshazzar, fut stupéfié pendant 1 heure environ. Imaginez la scène. Le roi est comme ça et Daniel ne bouge pas pendant 1 heure. Il est stupéfié. Et ses pensées le troublèrent. Le roi prit la parole et dit « Belteshazzar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. » Belteshazzar répondit et dit « Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent. » Notez comme il est intelligent, comme il tourne ça. « Et son interprétation pour tes ennemis. » Regardez ça. L'arbre que tu as vu qui croissait devenait fort et dont la hauteur atteignait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de toute la terre et dont le feuillage était beau et les fruits mains. Ouais, pas, c'est juste. C'est toi, ô roi. Donc l'arbre qui allait être coupé, c'était le roi. Donc il y avait un jugement qui venait contre le roi. Avançons juste un petit peu. Avançons encore un peu. Verset 24, c'est parfait. C'est ici l'interprétation au roi de la décision du Très-Haut, ce qui va arriver au roi, mon Seigneur. On te chassera du milieu des hommes et ta demeure sera avec les bêtes des champs. Donc là, il va dire tout ça. Et après, il finit. Juste le verset 25. Il finit verset 25 en disant. Le verset 25 en disant. Jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et quant à ce qu'on dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume te demeurera quand tu auras connu que les cieux dominent. Donc il dit, ton royaume va rester dans ta main. C'est beau ça, hein? Vous voyez l'intelligence? C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, au rond avec tes péchés par la justice et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix. Tout cela arrivera au roi Nebuchadnezzar. Donc il a tourné ça comme un avantage. Tes ennemis vont être jugés après 7 ans. Ils vont perdre après 7 ans. Vous voyez l'intelligence d'amener la vérité avec amour et compassion. C'est pour ça que l'amour doit abonder, on peut reprendre Philippiens 1, l'amour doit abonder en nous de plus en plus, en toute connaissance et intelligence. Pourquoi? Parce qu'on connaît ce qui est juste et avec l'intelligence de l'amener juste, comme il a fait Daniel. Amen. Verset 10 de Philippiens 1. Pour que vous discerniez les choses excellentes. Donc cet amour va vous faire discerner les choses excellentes, les choses importantes, les choses qui comptent au cœur de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce qui compte dans le cœur de Dieu? Afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ, alléluia, étant rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dites, je suis rempli du fruit de justice. C'est comme ça que vous priez pour les gens. Je vais juste vous redonner les passages. Donc Philippiens 1, notez-les s'il vous plaît. Philippiens 1, versets 9, 10, 11. Philippiens 1, versets 9 à 11. Colossiens 1, 10 à 11. Éphésiens 3, 15 à 19. Éphésiens 3, 15 à 19. Éphésiens 1, 16 à 19. Amen. Priez ces choses sur les gens. Pasteur Adewale nous a dit hier soir pendant la réunion des responsables de ne pas prier pour les gens qui nous sont confiés par l'Esprit est un péché. Priez pour les gens qui vous sont confiés. Pasteur Chris nous a dit une fois, je vais essayer de traduire juste, il a dit, les brebis ou les agneaux suivent le berger et les moutons, les petits moutons suivent les brebis. Il a utilisé cette métaphore pour dire que vous êtes des gens qui me suivez moins que votre berger, vous voyez. Mais il y a des gens qui vous suivent, vous. Comprenez une chose, si vous ne venez par exemple pas à l'église une fois, ce que vous avez tout à fait le droit de faire, amen, on a nos circonstances, comprenez que certaines personnes ne viendront pas à l'église si vous n'êtes pas là. Vous voyez ça? Vous comprenez un peu ça? C'est pour ça que vous devez les faire vous suivre, vous. Et vous, vous suivez le pasteur qui lui suit le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul il a dit « Imitez-moi alors que j'imite Christ ». Pourquoi il n'a pas dit « Imitez Christ » ? Parce qu'il parlait à des petits. Parce qu'après, il a dit que vous, à d'autres personnes, il a dit que vous ayez les regards fixés sur Jésus. Donc vous voyez, il savait s'adresser aux personnes. Il y avait des gens qui étaient plus bas spirituellement et d'autres plus hauts. Et l'apôtre Paul a adapté son discours. On le voit dans ses lettres. Dans certaines lettres, il est beaucoup plus doux. Dans d'autres, il est plus ferme. Dans d'autres, il va dans une explication théologique profonde. Notamment, on va le trouver dans Romains. Il va dans une explication théologique extrêmement profonde. Également, Jean, il dit « petits enfants ». Et ensuite, il dit « vieillards ». Il parle à des gens qui ont différentes avancées spirituelles. Vous comprenez? Vous comprenez? Et Jésus-Christ en vous fait que vous êtes la victoire de Christ pour quelqu'un. Amen. Priez pour les gens, priez, priez, priez. Pasteur Christ a dit en 2026, soit vous priez de manière volontaire, préventive, ou alors vous allez être forcé dans la prière à cause des choses qui vont commencer à se produire. Vous voyez? Ça veut dire amener dans la prière de force parce que vous n'aurez pas d'autre choix que prier. Amen. Vous êtes plus que prospère à tous égards. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La victoire de Christ est prononcée sur vous. Priez, priez encore et encore. Passez du temps dans la prière, passez du temps dans les Écritures. La Bible nous montre clairement que c'est la connaissance qui nous permet de renouveler notre pensée et de marcher dans la vérité de l'Évangile avec puissance, efficacité et honneur. Ne manquez pas les cellules, ne manquez pas la prière du matin, ne manquez pas ces choses-là. Il y a des exceptions possibles, bien sûr. Amen. On ne doit pas tomber dans une religiosité mystique, vous comprenez? Mais on doit être motivé par l'amour. C'est l'amour qui doit abonder de plus en plus en nous. Ces gens que vous croisez, ces gens que vous suivez, sans vous, elles ne seront pas construites. Vous comprenez? Sans vous, elles n'avanceront pas, ces personnes. Et vous devez être focalisé sur votre appel, sur cette réalité-là. C'est pour ça que vous tolérez l'offense. C'est pour ça que vous ne portez pas préjudice aux gens qui vous font du mal. Parce que vous êtes cette personne qui pourra les amener à Christ. C'est pour ça que vous ne bousculez pas les gens, vous comprenez? C'est pour ça que vous êtes poli. C'est pour ça que vous laissez ces choses ne pas vous offenser, amen. Pourquoi? Parce que vous devez amener ces gens à Christ ultimement. Juste? Vous devez amener ces gens à Christ ultimement. Vous devez les tirer vers la vérité, les tirer vers l'excellence. Comme Pasteur Chris a dit hier dans le Rhapsody, je crois, il a dit que votre vie, n'est-ce pas? Votre vie soit le reflet de Dieu. Regardez, c'était hier, je vais essayer de le retrouver. Le plus grand sermon, c'est de votre vie. Dieu vous a appelé à être une épître vivante, l'expression visible de sa justice, de sa grâce et de sa puissance. Les gens vous observent, notez bien, les gens vous observent, vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et même des inconnus. Votre vie est un message, même lorsqu'ils n'ont jamais lu la Bible, ils peuvent lire votre vie et voir Christ, sa perfection, son intégrité, son amour et sa compassion. Quand c'est la dernière fois que vous avez porté compassion à quelqu'un gratuitement? Compassion. Quand c'est la dernière fois que quelqu'un a mal parlé de vous et vous l'avez défendu? Moi aujourd'hui, fitness. Oui. Vous voyez? Quelqu'un a mal parlé de moi depuis plusieurs mois et quelqu'un était fâché contre elle à cause de ça. J'ai dit, attends, les gens ont leur raison de faire du mal. Pas des raisons valables, attention. Mais j'expliquais, les gens ont besoin de Christ. Toute occasion est bonne pour prêcher. Quelqu'un m'a critiqué, je l'ai tourné comme occasion pour prêcher. J'ai dit, cette personne a besoin de Jésus comme tout le monde. Et après, j'ai dit, c'est avec moi qu'elle a pas été sympa. Si elle est sympa avec toi, reste amie, il n'y a pas de raison. Vous voyez un petit peu comment on réfléchit? Je n'ai pas d'agenda personnel parce que ultimement, je vais me retrouver devant Dieu. Je sais que Jésus-Christ revient bientôt et je n'ai pas envie d'être laissé derrière, vous comprenez? L'apôtre Paul a dit, je me domine parce que je ne veux pas qu'après avoir prêché, je ne sois moi un chassé ou un mis de côté. Et le terme, il est clair à part ça. Hein. Il parle d'être pas sauvé. Hein. Il ne parle pas juste d'être mis de côté pour un truc. Hein. Il parle d'aller en enfer. Il n'y a aucun doute historique là-dessus. Donc il dit, je ne veux pas que ça m'arrive. Il a dit, j'amène mon corps dans la domination. J'assujettis mon corps. Si mon corps ne veut pas faire quelque chose, je lui dis, tais-toi. Vous voyez? Ou s'il veut faire quelque chose, je lui dis, non, c'est moi qui domine. Amen. Dites, je domine mon monde. Dites, je domine mon monde. Au nom du Seigneur Jésus. Dites, je suis plus que vainqueur. Toujours glorieux. Toujours avançant, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons partager la communion, la sainte communion qui nous fait avoir accès aux choses de Dieu. Amen. La très sainte communion. C'est pour ça que vous devez vous remplir du Saint-Esprit, vous comprenez? Vous êtes comme ça chez vous. La Bible dit qu'on doit se psalmodier à soi-même. Quand c'est la dernière fois que vous vous êtes psalmodié, vous avez pris un psaume et vous l'avez dit sur vous-même. Voyez, psaume 1. Regardez ça. Psalmodiez sur vous-même. Amen. Parlez sur vous-même. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Vous allez voir ce que la Bible nous montre. Elle dit, heureux, regardez ça. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Et vous dites là, vous savez, vous pouvez le dire. Moi j'aime la musique, mais pas besoin de musique. Vous le chantez. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Chantez-le pour vous. Psalmodiez dans votre cœur et vous vous remplissez du Saint-Esprit quand vous faites ça, vous voyez? Et là, tout d'un coup, toutes les petites douleurs que vous pouvez avoir dans votre corps commencent à s'enlever. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va remplir votre corps. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Elle ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Au nom du Seigneur Jésus, je refuse de m'asseoir au siège des moqueurs. Et vous voyez, vous remplissez du Saint-Esprit comme ça. Ensuite, au verset 2, il nous dit, « Qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. » Et vous êtes là, « Je médite dans ta loi, Seigneur. » Oui, Seigneur, je me médite dans ta loi jour et nuit. Mon cœur est orienté vers toi, même dans la nuit, même quand mon corps se repose, mon cœur et mon esprit sont alertes à ta loi. C'est beau, hein? Et il dit, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Dites, tout ce que je fais prospère. Vous voyez, et en fait, à force de faire ça, vous remplissez votre intelligence de ces paroles qui sont vraies et puissantes. Et c'est pour ça que ça vous pousse à faire avec courage ce que Dieu vous appelle à faire. Vous le faites, ça va marcher. Pas de discussion. Facile, hein ? Vous le faites, ça va marcher. Pas de discussion. Pourquoi ? Parce que vous avez rempli votre intelligence de cette vérité. Tout ce que je fais prospère. Parce que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Pouvez-vous vous lever, nous allons faire la Sainte Cène ensemble. Levez les mains vers Dieu, lui qui est votre salut.